T'es en manque d'inspiration?
T'es curieuse?
À la bonne heure, tu es au bon endroit.
Vos médiathèques s'invitent à Radio B pour vous présenter leur coup de cœur du moment.
Nos chroniques sont à retrouver le 4e mercredi du mois.
À 7h30, 8h30 et 12h30.
Rediffusion le samedi à 12h30.
Tu nous as ratés?
Pense au podcast.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bonne année. En 2025, les bibliothécaires n'ont pas fini de vous partager leur coup de cœur. Aujourd'hui, autour de la table, vous allez entendre Antonin pour un manga comico-historique, Marjorie avec une biographie romancée, Maël pour une nouvelle revue et moi-même avec un film. Bonne écoute. La Saint-Valentin approche à grands pas. Alors j'ai eu envie de vous parler d'amour et de vous présenter une comédie romantique. Cependant, loin de moi l'idée de vous parler d'une énième romance hollywoodienne entre un beau gosse mystérieux et une jeune fille qui débarque de la campagne. Non, non, non. Aujourd'hui, on part en Finlande voir Les Feuilles Mortes, un film de Aki Korismäki. Ce n'est pas par l'histoire que le film va nous changer de ce qu'on a l'habitude de voir. Il est convenu qu'une comédie romantique, c'est... Personnage A rencontre personnage B, et après une série de péripéties, ils finissent ensemble. Ce film n'échappe pas à la règle. Mais alors, pourquoi c'est intéressant? Pour répondre à cette question, laissez-moi d'abord vous en poser une autre. Qui est Aki Korismäki? Réalisateur prolifique, Les Feuilles Mortes étant son 20e film, il est connu pour savoir mélanger comédie déjantée et drame désespérant. Il aime travailler les mêmes thèmes sur plusieurs films, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, venant clore sa trilogie autour du prolétariat. Dans Les Feuilles Mortes, les personnages sont tristes, déprimés, sans but. Elle a un contrat précaire dans un supermarché, où elle vole des produits périmés afin d'économiser des repas. Lui est ouvrier. Alcoolique, il boit même à l'usine pendant ses heures de travail. Ces deux solitaires vont se rencontrer un soir dans un bar karaoké. Seule distraction avec le cinéma dans cette ville morne. Et sans avoir besoin d'échanger plus que quelques paroles, ils vont tomber amoureux, essayer de trouver dans l'autre une raison de vivre, de ressentir, de changer. L'ambiance de ce film est froide, grisâtre, plate. On ressent l'ennui des personnages, leur mélancolie. À part au bar karaoké, il y a très peu de musique. On entend la ville, les bips, les machines, le vent. Et les quelques fois où un doigt est tendu en direction de la radio, on se dit « Ah, elle va mettre de la musique, un peu de joie peut-être !» Mais non, à chaque fois, tout ce qui en sort, ce sont des nouvelles sur la guerre en Ukraine. Car oui, le film est contemporain de notre époque, malgré ce qu'on pourrait croire en voyant les tables en formica beige et les télés cathodiques qui traînent par-ci par-là. Bon alors oui, je me suis un poil ennuyé. Ça ne m'a pas trop changé les idées. Mais sortir des standards américains de temps en temps, ça fait du bien. La photo est très belle. Les acteurs et actrices jouent très bien, c'est poétique, c'est humaniste, c'est plein d'espoir. Et puis, il faut quand même que je vous avoue, je sors pas ce film de mon chapeau. Il a été nominé aux Golden Globes de 2024 et au Festival de Cannes 2023 où il a même reçu le prix du jury. Conclusion. Voler telle une feuille morte jusqu'à la médiathèque Césaire, enfin d'emprunter le DVD « Les feuilles mortes » d'Aki Korismäki. Mais parce que j'aime bien aussi les comédies romantiques hollywoodiennes, en voici quelques-unes de mes préférées que vous pourrez retrouver dans vos médiathèques. 500 jours ensemble, Il était temps, La La Land, Le Comeback ou encore My Blue Valentine. Voilà, c'était Kevin.
Qu'est-ce que c'est, les collègues? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Non? Rien? Vous ne réagissez pas? Rien? Et si je vous parle de la recette emblématique de la cervelle d'ours, ça vous parle? Non? Toujours pas? Toujours rien? Bon, ok. Alors sachez que c'est un chant traditionnel Ainu, une peuplade autochtone de l'île japonaise d'Hokkaido, que l'on découvre en filigrane dans la génialissime série de manga Golden Kamuy de Satoru Noda, dont je vais vous parler aujourd'hui. Difficile de prendre ce manga par un bout, car il recoupe de multiples facettes et registres. Mais déjà, peut-être, commençons par l'histoire. En ce début de XXe siècle, sous l'ère Meiji, la guerre russo-japonaise vient de s'achever et les soldats s'en retournent chez eux. La société japonaise dans son ensemble est parcourue de soubresauts dans cette période de révolutions multiples. Notre histoire prend place lorsqu'une rumeur grossissante parcourt le nord du Japon évoquant un trésor caché, regroupé par ce peuple Ainu, justement. Nous découvrons Sugimoto, qu'on appelle l'immortel, qui est un rude soldat survivant du front russe, rude mais loyal. Guidé par l'appât du gain, il va se retrouver en pleine nature sauvage dans les forêts d'Hokkaido. Dans les prémices de ses recherches de ce trésor, il va rencontrer donc Ashirpa, une jeune et intrépide Ainu, étrangement mêlée au trésor. Commence alors la fabuleuse épopée de nos deux principaux personnages. C'est dans ce contexte historique qu'opère la fabuleuse originalité de ce manga. Premier point notable que l'on observe dès les premières dizaines de pages, leur aventure va être parsemée d'une ribambelle de personnages plus loufoques, attachants les uns que les autres, et en même temps aux motivations sérieuses et historiques, tous sur la piste du trésor également. Cela nous lance dans une course folle et intrépide avec des opposants, des partis, des alliances multiples qui vont se monter et démonter. Car c'est une chasse au trésor digne des meilleurs moments de la série Prison Break. En effet, la carte précisant l'emplacement du trésor a été tatouée en secret sur le dos d'une dizaine de prisonniers dans les couloirs glauques d'une prison. Prisonniers tous plus dangereux et étranges les uns que les autres, bien sûr. Et bien sûr, tous évadés et éparpillés dans la nature japonaise. C'est une course au pot, du coup, que nos aventuriers vont devoir trouver, recopier ou directement arracher sur le dos de ces malfrats. Ensuite, ça aurait pu rester une simple histoire de chasse au trésor, mais c'est bien plus que cela. Nous découvrons avec nos personnages, à grand renfort de magnifiques illustrations et de recherches historiques très poussées, toute la culture du peuple Ainu de ces îles septentrionales, assez peu connues. Coutumes, habitudes, costumes, chasse, survie, alimentation, tout y passe. Et comme par magie, ce manga vous transporte, tout en vous apprenant tous ces détails, de façon passionnante, intelligente et terriblement drôle. Oui, car c'est aussi une force de ce titre. C'est l'humour terrible qui transpire sans discontinuer de chaque case de l'histoire. Quiproquo, scène loufoque, mimique à tomber de votre chaise. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Et au final, on ne peut que parler d'exploit quand on découvre que page après page, l'auteur a réussi à vous transmettre son récit en étant historiquement pointu, fidèle et culturellement extraordinaire, bourré d'intrigues et d'actions, souvent sanglantes, il faut le dire, tout en étant vraiment drôle et plein d'intelligence. C'est simple, je vous mets au défi, après avoir achevé la dernière page du manga, de ne pas sauter dans le premier avion pour aller découvrir les forêts d'Hokkaido, la tête pleine de ses péripéties. Car oui, si je vous parle de cette série, c'est que le clap final vient d'avoir lieu à travers le tome 31 que la médiathèque Vaillant vient d'acquérir en décembre dernier. Ça, si c'est pas la meilleure raison pour vous jeter sur la série en entière, je sais plus quoi vous dire d'autre. Et est-ce que je vous ai dit que cette lecture serait une première et belle introduction à notre temps fort sur le Japon dans vos médiathèques préférées ? Ben non, je vous en ai pas parlé, ben je vous en parle maintenant. Donc si cette série grandiose ne vous aura pas suffi, vous retrouverez une pléthore d'animations pour prolonger votre voyage autour du pays du soleil levant. Durant tout le mois de février ou un peu plus, on vous a proposé plein de choses. Projections, ateliers de cuisine, rencontres d'auteurs, initiation au japonais, découverte de jeux vidéo, ateliers de calligraphie et j'en passe. Je vous invite donc à vous pencher sur notre programmation, sur le portail des médiathèques et à travers l'agenda des médiathèques, lors de votre passage pour emprunter la série Golden Kamuy de Satoru Noda, à retrouver donc à la médiathèque Vaillant. Et je passe la parole à Marjorie.
Bonjour chère auditrice, cher auditeur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la vie de Suzanne Valandon, qui est née en 1865 et décédée en 1938, à travers une biographie romancée de Jean-Paul Delfino. La franchise de Montmartre nous fait découvrir la femme derrière la peintre. Vouloir devenir artiste peintre à la fin du 19e siècle, alors que ce siècle est dominé par les hommes, n'est pas facile. Et être reconnue en tant que telle encore moins. C'est son quotidien que Jean-Paul Delfino nous raconte sans phare et avec la gouaille qui la caractérise. Le roman commence à la fin de sa vie. Elle vient d'avoir 72 ans et elle sent la mort approcher. Elle veut raconter la vérité, toute la vérité. Elle va se confier à l'écrivain et journaliste Francis Carco, son ami, qui souhaite écrire un livre sur elle. Elle dévoilera le nom du père de son fils, le peintre Maurice Outriot. Elle va tout dire avec ses mots, son enfance misérable avec une mère alcoolique, sa carrière de modèle, la révélation qui lui a donné envie de créer la gloire, puis la déchéance. Fille d'une mère lingère illettrée et d'un père inconnu, elle a vécu 1000 vies. À 11 ans, sa mère la met au travail pour qu'elle puisse manger. Elle est écuyère, mais elle se blesse et ne peut plus monter sur un cheval. Remarquée pour sa beauté, elle devient modèle à 15 ans et sera l'égérie et la maîtresse de Pouvide Chavannes, de Renoir, de Toulouse-Lautrec, d'Éric Satie. Degas l'encourage et est son protecteur et son mentor. Elle est aussi la mère absente de Maurice Outriot, qui deviendra peintre et qui connaîtra une renommée plus grande qu'elle. Elle en souffrira et jusqu'au bout, elle pensera qu'elle a été une mauvaise mère. Cette biographie est passionnante car elle éclaire son œuvre et aide à comprendre les sujets qu'elle a voulu peindre. Totalement autodidacte, elle n'a été influencée par aucune école, aucun mouvement. Elle ne reconnaît qu'une seule influence, celle de Gauguin, qu'elle n'a jamais rencontré. Suzanne Valadon se moque des convenances. Elle n'est guidée que par son art et sa liberté. Elle a un caractère bien trempé. Elle veut vivre comme elle l'entend en restant indépendante. Elle ne peint pas le beau, mais le vrai. Son milieu pauvre avec sa laideur, sa misère, son ivrognerie. Jean-Paul Delfino nous dépeint un Montmartre bouillonnant, excessif, créatif, mais aussi pauvre et violent. Il retranscrit tellement bien la gouaille parisienne qu'on se croirait siroter un verre d'absinthe dans les gargotes enfumées. Un très bel et grand hommage à cet artiste du Montmartre de la Belle Époque. Je vous rappelle donc le titre de ce livre, « La franchise de Montmartre » de Jean-Paul Delfino, que vous pouvez retrouver dans les 3 médiathèques de Bourg-en-Bresse. Maintenant, je laisse la parole à Maëlle qui va nous parler d'une revue.
Bonjour à toutes et tous, chères auditrices et auditeurs. Cet automne, dans les 3 médiathèques, vous avez eu l'occasion de voter pour une revue que vous souhaitez consulter dans vos médiathèques pour la 2e année consécutive. Petite nouveauté cette année, le choix s'est fait pour les adultes et pour la jeunesse. Les revues lauréates en adultes sont Bout du Monde pour Vaillant, un magazine de voyage, Burdastyle pour Césaire, qui aborde la couture, et La Déferlante pour Camus, une revue féministe. Les magazines choisis en jeunesse sont Virgule, une revue littéraire pour Vaillant, Utaku Manga, qui parle de l'univers des mangas à Césaire, et Tout comprendre Junior, un magazine scientifique à Camus. Aujourd'hui, mon coup de cœur de ce mois se porte sur la revue La Déferlante. C'est un magazine trimestriel créé en 2020 par 4 fondatrices et rejointes par d'autres. L'équipe compte désormais 11 salariés en plus des effectifs éditoriaux. La revue est conduite par un manifeste rédigé par 4 cofondatrices dont les 5 piliers sont un média engagé, un projet collectif, une pluralité des voix, un média indépendant, une diversité des formats. Je vous invite à lire ce manifeste que vous trouverez sur le site revueladéferlante.fr si vous êtes curieux et curieuse d'en savoir plus. Ce magazine se compose d'articles principalement autour du féministe. Chaque dossier central est un thème déclinable à l'infinitif selon les rédactrices. Résister pour le numéro du mois d'août, s'habiller pour le dernier en date. Dans le numéro du mois d'août, la revue nous propose des rencontres, des analyses, des débats, de la poésie, de la bande dessinée, de l'histoire. Le magazine donne aussi carte blanche à des invités comme Talma Desta ou encore Fatima Wazak. Vous retrouverez cette revue à la médiathèque Camus et je remercie les participants d'avoir voté pour le choix des revues. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à très bientôt dans vos médiathèques.
T'es en manque d'inspiration ?
T'es curieuse ?
À la bonne heure, tu es au bon endroit.
Vos médiathèques s'invitent à Radio B pour vous présenter leur coup de cœur du moment.
Nos chroniques sont à retrouver le 4e mercredi du mois.
À 7h30, 8h30 et 12h30.
Rediffusion le samedi à 12h30.
Tu nous as ratés ?
Pense au podcast.